un temps pour lire.
Nous allons aujourd'hui partager la lecture d'un livre de près de 400 pages, en fait qui les dépasse même. Il nous amène à partir en montagne à la découverte des plantes qui y poussent, nous présentant de façon souvent ludique un savoir quasi encyclopédique. Ce guide des plantes sauvages en montagne, c'est son titre, vient de paraître aux éditions Terre Vivante. Et j'ai le plaisir d'en accueillir les auteurs de ce bel ouvrage, Cyril Bouvet et Lionel Scaturo, tous deux passionnés de nature, une passion qu'ils partagent au quotidien. Bien. Cyril Bouvet, Lionel Scaturo, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au micro de Radio Semnose pour cette émission aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous expliquer ce qui vous relie l'un et l'autre aux plantes et en particulier aux plantes de montagne ? Cyril Bouvet.
Allez, je te laisse.
Ouais, je pense qu'il nous relie tout simplement, c'est qu'on habite dans le même secteur, on est dans le massif des Bauges. Donc Lionel à Gruffy et moi à la Motte-en-Bauge. On apprécie d'explorer et de vivre sur ce territoire. Après aussi, on partage l'amour de la nature et la passion de la nature au travers de nos métiers respectifs. Lorsqu'on s'est rencontrés il y a quelques années dans le cadre professionnel, on s'est bien entendu, on s'est rendu compte que tous les deux, on appréciait tout ce qui tournait autour des plantes sauvages notamment. Et on a fait quelques balades à la découverte des plantes. Et puis après un jour, Lionel est venu et puis il m'a dit j'ai envie d'écrire un bouquin, mais j'ai pas envie de le faire tout seul.
Je comprends pourquoi, en voyant le livre.
Donc voilà, on s'est dit tiens, pourquoi pas.
C'est vrai que ce livre, j'avais une idée générale, mais effectivement, moi, je ne me voyais pas capable d'écrire tout ce que j'avais envie de dire. Et en plus, il y a aussi autre chose, c'est l'apport que peut amener une autre personne, justement, sur une idée. Quand on est seul, c'est sympa, je pense à des trucs, mais en fait, Cyril, il a apporté toute sa vision et toutes ses expériences, en fait. Donc ça, c'était super chouette, enrichissant pour le livre aussi, quoi. J'aurais jamais fait ça, même si j'avais pris 3 ans, j'aurais pas fait la même chose, quoi, c'est sûr. Et là, je trouve que notre livre est génial.
Alors justement, quand je l'ai eu entre les mains, ce livre, je me suis dit « Ah oui, quand même !» parce que je ne savais pas du tout quelle serait la forme, le volume non plus. C'est un ouvrage à la fois particulièrement agréable à parcourir, je trouve, hein, mais aussi foisonnant. Alors comment est-ce que vous avez fait pour rassembler toutes ces données, parce qu'elles sont conséquentes ?
Oui, donc il y a quand même un travail littéraire. C'est sûr qu'on a fait une grosse compilation d'énormément de livres de notre bibliothèque. Après, il y avait aussi notre expérience respective. Donc moi, j'ai travaillé un peu dans l'éducation à la nature, dans l'agroécologie, comme accompagnateur en montagne. Et puis Lionel, comme ethnobotaniste, paysagiste. Et puis voilà, les connaissances aussi personnelles, parallèles. Tout un ensemble de données que finalement, on avait des visions complémentaires, comme il disait Lionel. Et donc, ce livre est un peu la synthèse de nos deux parcours et de l'envie de faire découvrir les plantes, d'aller à leur rencontre de manière très ouverte et en même temps pédagogique.
On a fait énormément de recherches. Je n'ai pas compté combien de livres on a noté sur la bibliographie, mais plusieurs dizaines de livres. Plusieurs dizaines de sites internet qu'on a d'ailleurs pris garde de bien sélectionner. Tout ça associé à nos savoirs, c'est ce qui a donné ce livre aussi riche de transmission, hein, finalement.
Il me semble que vous avez eu accès aussi à des enquêtes qui ont alimenté ce livre.
Oui, notamment un bouquin qu'on a bien aimé, qui était un bouquin d'enquête ethnobotanique, donc réalisé auprès d'anciens qui se trouvaient dans les Bauges et dans la Chartreuse. Et le nom du livre,
Cueillette de mémoire,
ouais, qu'on a bien aimé. Justement, on a rapporté, écrit pas mal de petits mots d'anciens qui avaient été glanés justement lors des recherches de ces gens-là pour réaliser le livre.
Et ça, ça rend le livre particulièrement vivant. C'est vrai que ces paroles d'anciens, elles mettent du piment. Alors, on va partir donc à la découverte des plantes sauvages qui se trouvent en montagne dans notre région. Est-ce que ce sont des plantes qui sont accessibles à toutes et à tous ?
Oui, hein, on est parti vraiment dans l'idée de faire découvrir les plantes donc de l'étage collinéen à partir de 400 mètres jusqu'à l'étage alpin, donc à 2800 mètres, mais en s'orientant quand même beaucoup plus sur les plantes relativement communes de l'étage collinéen et montagnard, qui est quand même le gros paquet des fiches plantes, mais avec l'idée aussi de faire découvrir des plantes un peu moins connues, et puis dans l'idée de donner envie d'aller un peu plus en altitude, découvrir aussi ces plantes alpines avec leurs usages, leur écologie et les petites spécificités, donner envie d'aller les observer, les découvrir et d'aller évoluer aussi dans ces lieux de montagne qui nous plaisent bien ici en Haute-Savoie et Savoie.
Donc il y a des plantes différentes selon l'altitude, selon la nature du sol, du terrain lui-même ?
Oui, et même suivant l'humidité aussi. On a essayé de sélectionner justement des plantes qui étaient plus de prairies, d'autres plus de milieux humides, d'autres plus terrain sec. Voilà, mais à chaque fois, ça justement, ça apparaît dans le livre. sur un petit cadre, en fait, vous aurez ces informations.
Tout à fait, parce qu'il y a une dimension très pratique à ce livre, hein, et ça, c'est particulièrement utile pour chacun d'entre nous, surtout pour des personnes comme moi qui n'y connaissent rien. Vous nous orientez à chaque fois à la découverte de ces plantes, pour les reconnaître, déjà, c'est la base. Et puis ensuite, peut-être, alors je vais dire ça sous une formulation un peu particulière, très consommatrice, mais pour savoir à quoi elles servent. Comment est-ce que vous avez décidé d'en parler aux lecteurs lambda comme moi ?
La sélection, ça a été fait par rapport au type de plantes qu'on aimait bien. Alors là, on a essayé de faire une sélection entre nous deux, parce que Cyril avait peut-être des plantes qu'il aimait particulièrement, moi d'autres que j'aimais aussi, donc on a fait une petite compilation de toutes ces plantes. Et puis j'ai oublié le début de la question.
Non, mais après, il y avait l'idée aussi de, surtout des plantes à usage, c'est-à-dire qu'il y a énormément de bouquins sur la botanique, de découvertes de la flore, de montagne. Nous, c'était pas ça l'idée, c'était, enfin, en partie, mais il y a l'identification, mais il y a surtout des informations sur la cueillette et leur utilisation, qu'elle soit médicinale, comestible, agricole, tinctoriale, ludique, et donc ouvrir beaucoup plus large que juste un livre de botanique qui fait découvrir la plante.
Effectivement, il y a là beaucoup d'usages différents en fait. Ça ne s'adresse pas à un créneau particulier. Ce n'est pas forcément des plantes médicinales. Ça peut être des plantes que l'on mange tout simplement, enfin, etc., etc. Et ça, c'est intéressant parce que le champ est vaste. C'est le moins qu'on puisse dire.
Tout à fait. Donc, c'est vraiment un livre qui invite à aller à la rencontre des plantes. Donc, il y a 70 fiches plantes. Et puis, il y a aussi une introduction qui invite à mieux faire connaissance avec le végétal. Donc, de la biologie végétale, le métabolisme des plantes, de la botanique élémentaire, les principes d'une bonne cueillette. Voilà, ce genre de choses. Et à la fin, un petit cahier pratique avec des recettes, des activités ludiques, avec aussi un fil conducteur qui est pédagogique, où on invite les parents, les enseignants, les guides qui voudraient avoir un savoir-faire pédagogique pour inviter à la rencontre du végétal, d'avoir des outils dans le livre pour les aider dans leur pratique de parents, d'enseignants.
On va revenir justement sur le respect des plantes, je dirais en général, les bonnes pratiques hein, sur ce plan-là. Mais on a évoqué tout à l'heure la parole des anciens. Est-ce que quelque part dans votre livre, il y a une dimension patrimoniale, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on n'oublie pas certaines plantes ou qu'on redécouvre d'autres ?
Oui, je dirais même que ça fait partie du principe même de nos formations, finalement, de conserver tout ce patrimoine qui se perd petit à petit, ou en tout cas qui s'est perdu, et que, bon, depuis quelques années, il y a quelques personnes qui essaient de retransmettre tout ça, mais bien sûr, c'est un patrimoine, les plantes sauvages, qu'on est en train de perdre, et le fait de nos formations, ou l'écriture de ce livre, c'est de transmettre tout ça et de le garder. Du coup, on est obligé de faire des recherches parce que tout s'oublie, malheureusement. Donc, mais bien sûr, ça fait partie de la première idée d'avoir écrit ce livre.
Oui, puis autrefois, ça, c'est des choses qui se transmettaient de génération en génération. Maintenant, c'est plutôt des écoles privées, en fait. Moi, j'ai fait une école d'arboristerie, Lionel a fait une école d'ethnobotanique. Et donc, c'est des savoirs maintenant qui se transmettent plus dans des écoles que dans le cercle familial. Alors qu'auparavant, c'était vraiment les grands-parents ou les parents qui transmettaient ce genre de choses.
Et on était directement sur le terrain.
Oui.
Ce que vous nous proposez aussi, on va y venir là également. Hein. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de plantes à découvrir ou à redécouvrir qui peuvent être utiles pour notre quotidien ? Des exemples, parce que là, on ne va pas reprendre l'ensemble du guide. Hein.
Oui, c'est vaste. C'est vaste. Oui.
Parlons de l'ortie, peut-être. L'ortie, c'est l'incontournable, finalement, parce que tout le monde connaît l'ortie. Tout le monde a peur de l'ortie, et finalement, l'ortie, c'est super riche en vitamine C. C'est 5 à. C'est même 6 fois plus riche en vitamine C que les oranges, ou que le chou, parce que le chou orange, c'est à peu près pareil en vitamine C. Il y a 50 mg de vitamine C pour 100 g. Les orties, on va être à peu près à 300 mg pour 100 g. Donc, c'est vrai que l'ortie est super riche, elle est super riche en fer, elle est super riche en minéraux, elle est super riche en protéines, elle est médicinale aussi.
Elle est artisanale.
On a fait des cordages, tout simplement, ou même des tissus, certainement, je me souviens plus, mais voilà, c'est une plante incontournable. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'ortie, et tout le monde cherche à éradiquer l'ortie.
Alors le problème de l'ortie, c'est qu'elle pique.
Elle pique. Bon, on se met des gants. Je veux dire, si on prend des gants, on peut l'accueillir facilement.
Ou alors on peut trouver une autre plante pour soigner nos piqûres, peut-être.
Effectivement, on en parlait tout à l'heure, oui, pour soigner les piqûres d'ortie, il y a le plantain. Plantain, plante extraordinaire aussi. Le plantain va soigner, donc va apaiser les piqûres d'ortie, mais va apaiser aussi les piqûres d'insectes en tout genre. Elle va être cicatrisante, antihistaminique, antiseptique. On parle de sparadrap du randonneur quoi, avec le plantain. Et en plus, elle se mange. Elle a un super goût de noix champignons. On fait du pesto de plantain qui est super bon, quoi. Vraiment super bon.
J'ai envie de goûter ça. Cyril, un autre exemple ?
Après, nous, dans le livre, on parle pas mal aussi des arbres. Donc, on pourrait peut-être parler de l'épicéa, qui est quand même un arbre montagnard emblématique de nos forêts savoyardes. Déjà, aller à la découverte de cet arbre, savoir le différencier par rapport au sapin, par rapport à l'if, qui peut être une confusion toxique, dangereuse, mortelle même. Donc finalement, l'aiguille d'épicéa, elle va être piquante, elle va être en forme de brosse sur le rameau. Le rameau va être un peu rougeâtre. Et puis, c'est des grands et beaux arbres qui sont bien adaptés au climat montagnard. Et quel usage faire avec cet arbre? Déjà, au niveau comestible, on peut par exemple faire une gelée avec les jeunes pousses d'épicéa, un peu d'agar-agar, on fait une infusion, une décoction, et on fait une gelée d'épicéa. Ou alors, tout simplement, on peut aussi faire un baume avec la résine d'épicéa. Faire un baume apaisant, vulnéraire, pour les blessures, pour les plaies que les anciens en fait fabriquaient. Ils appellent ça de la poix. Voilà un exemple. Avec les arbres qui nous entourent, on peut faire pas mal de choses.
Des exemples, vous en aurez plein, évidemment, dans le guide des plantes sauvages en montagne de Cyril Bouvet et Lionel Scatoureau. Petite question, quelle attention porter à toutes ces plantes que l'on croise, sur lesquelles parfois on marche ou l'on grimpe quand il s'agit d'arbres? Quelles sont les bonnes pratiques en la matière?
Je vais laisser Cyril parler là. Il est fort pour ça.
Déjà, s'intéresser à l'espace, enfin, s'il y a une réglementation dans l'espace naturel dans lequel on évolue, parce que maintenant, en fait, on est confronté dans notre société où la pollution est de plus en plus présente, la biodiversité est de plus en plus en train de s'effondrer. Donc, malheureusement, il y a des règlements de protection des espaces naturels. Donc, savoir déjà où on est, où on évolue, et donc, est-ce qu'il y a une législation particulière où on est, si c'est une réserve, un parc national, un parc régional, un arrêté de biotope, enfin, ce genre de choses, c'est peut-être un petit peu, des fois un peu rébarbatif, mais c'est vrai que c'est important de savoir pourquoi et où est-ce qu'on est, comment on y évolue. Et bien sûr, respecter cette réglementation qui est importante. Et puis après, tout simplement, pour moi, c'est la logique des choses, c'est pas jeter son papier, pas jeter son mégot, ce genre de choses. Tout simplement, le respect de la nature, savoir que cette nature, finalement, c'est, on a un lien avec elle. Justement, il y a peut-être une rupture actuellement, une cassure. C'est elle qui nous nourrit, qui nous fait respirer. Certains utilisent le terme de terre nourricière ou de mère nourricière, mais au sens concret, c'est vrai, quoi. Donc on a tendance à l'oublier.
Et plus on la connaîtra, plus on la respectera. Et le fait d'avoir écrit ce bouquin permettra justement, j'espère, que plein de gens apprécient encore plus la nature et qu'ils pourront encore plus la respecter.
Et pour la découvrir encore mieux, il y a le livre, bien sûr, mais vous proposez également des ateliers qui vont se dérouler jusqu'au mois d'octobre avec un rendez-vous par mois à venir. Alors le premier de ceux-ci aura lieu les 18 et 19 juillet, ensuite ce sera le 23 août, le 25 septembre et le 16 octobre. Le premier comporte 2 jours, qu'est-ce qui va se passer au cours de ce rendez-vous-là?
Donc sur ces 2 jours, en fait, on va commencer la première journée un petit peu plus bas en altitude, de type étage montagnard à peu près, collinéen montagnard. Là, on va cueillir des plantes, faire des transformations médicinales, préparer un repas pour le soir avec notre cueillette. Et le lendemain, on va partir un petit peu plus en altitude pour aller voir les plantes un petit peu dessommées et voir justement d'autres plantes, voir comment est-ce qu'elles fonctionnent, parce qu'elles sont obligées de s'adapter quand il y a un petit peu moins d'humidité, le soleil qui tape plus fort. Donc on va aller observer tout ça, en parler sur 2 jours. Voilà, toujours à base de petites préparations de plantes sauvages tout au long des 2 jours.
Voilà donc pour ces 2 jours, les 18 et 19 juillet, ce sont des lundis et mardis. Et puis il y aura des journées, je le mentionnais, plus tard, au mois d'août, septembre et octobre. Là, c'est le même schéma qui va se dérouler sur une seule journée?
Oui, c'est un petit peu dans la même idée. Donc en fait, le 23 août, c'est une balade avec peu de dénivelé, à la découverte des plantes de l'étage montagnard. Donc on envisage de faire ça sur le plateau du Revard dans les Bauges, où il y a une belle diversité forestière. Et donc là, c'est une balade aussi avec une transformation comestible et une note médicinale dans la journée, avec des moments de pause, des moments un peu plus théoriques, des moments plus pratiques. Et puis après, donc le 25 septembre, là, c'est plutôt une randonnée qui est proposée. Donc il y a un petit peu plus l'aspect marche, aller un peu plus en altitude et avoir une ambiance un peu plus montagnarde. Mais sinon, on reste dans la même approche, la même dynamique.
Et pour le dernier rendez-vous du mois d'octobre?
Donc mois d'octobre, là, on sera sur une balade. Donc là, il y aura l'ambiance forestière, à la découverte, notamment, on est sur la saison où il y a beaucoup de baies, de fruits.
C'est l'automne.
C'est l'automne, donc voilà, on est dans l'ambiance automnale, avec ses spécificités aussi.
Où est-ce qu'on peut retrouver cette programmation? Sur vos sites respectifs, je crois.
Oui, tout à fait. Donc moi, c'est sur naturalp.eu, donc il y aura toutes les informations sur les 2 types de stages. Vous pouvez aussi téléphoner au 06 70 44 05 21 pour les renseignements ou les réservations. Et sinon, sur le site de Lionel aussi.
L'école des saveurs des bois.
Donc pour Cyril Bouvet, naturalp.eu ou alors le 06 70 44 05 21. Et puis ensuite pour Lionel Scatoureau, vous avez l'école des saveurs des bois en un seul mot, en gardant point toutes com. Les lettres, point com à la fin, effectivement. Et puis je vous conseille vivement la lecture donc, de ce livre dont nous avons parlé aujourd'hui, le guide des plantes sauvages en montagne, découverte, identification, cueillette et usage aux éditions Terre Vivante, qui ne sont pas très très loin d'ici, on est dans l'Isère. Bon, voilà ce livre de Cyril Bouvet et Lionel Scatoureau qui mérite vraiment d'être compulsé, d'être emmené avec soi quand on va se balader pour découvrir tout ce qui s'y trouve et le découvrir dans la nature. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir été des nôtres aujourd'hui.
Merci.
Merci à vous.